La Fondation Maison des Sciences de l'Homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique. Pour ce faire, elle accompagne des chercheurs et chercheuses qui ne peuvent plus exercer leurs activités avec la sérénité, voire avec la sécurité nécessaire. Des situations de stress, de surveillance, des blocages administratifs, le racisme ou encore les discriminations de genre, parfois les guerres, les ont conduits à se déplacer, à se protéger, à s'isoler, voire à se cacher. Cette diversité d'obstacles appelle en retour autant de stratégies de protection et de contournement de la part des chercheurs et chercheuses. Cette collection « Zone contrainte » vous en livre les récits. Aujourd'hui, nous entendrons Rebecca Lemos Igreja. Elle est venue du Brésil, lauréate du programme TEMIS de la FMSH. Ces soutiens que délivre la Fondation permettent de réunir, pour quelque temps au moins, les conditions d'une recherche paisible, d'obtenir un visa, de se loger, ou encore de disposer d'un espace de travail et de tisser des liens avec de nouveaux collègues.
Peu avant les élections présidentielles de 2022 au Brésil, nous avons reçu l'anthropologue Rebecca Lemos Igreja, professeure à l'Université de Brasilia, pour qu'elle nous parle de la situation des universités dans son pays. Sans négliger aucune dimension de la crise qu'elles ont traversée, Rebecca Lemos Igreja remonte aux réformes de l'enseignement supérieur menées par Lula et au-delà, aux sources historiques d'une situation politique marquée par la confrontation. De fait, nous explique-t-elle, les universités n'ont pas seulement vu leurs moyens réduits à peau de chagrin, mais se sont trouvées au cœur d'une véritable bataille idéologique. Cette bataille avait pour but de les expurger de l'influence d'un supposé marxisme culturel et d'instaurer un nouvel enseignement fondé sur des valeurs conservatrices au bénéfice d'une élite restreinte. Outre ces pressions financières et administratives, les instruments de cette tentative de révolution conservatrice ont été le soutien massif à l'enseignement évangéliste, la surveillance des professeurs, le dénigrement et l'incitation à la violence sur les réseaux sociaux, avec pour résultat l'autocensure, le renoncement à certaines recherches, la peur de parler librement devant les étudiants.
Je m'appelle Rebecca Lemos Igreja, je suis brésilienne, anthropologue, professeure de l'Université de Brasilia, qui est le district fédéral, la capitale du pays. Je suis professeure des sciences sociales et de la faculté des droits, donc je travaille entre les deux disciplines. Et je suis aussi associée à la FLACSO, qui est la faculté latino-américaine des sciences sociales, qui est un organisme latino-américain et créé, ça fait longtemps, dans les années 50, par l'UNESCO. Et donc, qui s'occupe d'établir des programmes de master et doctorat dans tous les pays d'Amérique latine. Donc là-bas, je coordine un programme qui c'est un collège d'études globaux où on discute plusieurs thématiques en relation à la question actuelle qui sont plus, en disant, prenants, importants aujourd'hui. Et à ce moment, bon, je suis ici aussi à Paris, invitée dans les programmes de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Donc, comme j'avais dit, j'ai deux volets dans la faculté des droit et sciences sociales, mais s'ils sont très connectés, parce que mon intérêt, c'est surtout avec discuter les rôles des pouvoirs judiciaires dans la démocratie. Donc, c'est hyper important pour savoir quel est le rôle, comment les pouvoirs judiciaires peut actuer pour la protection de la démocratie, et surtout dans l'Amérique latine, qu'on a vu les pouvoirs judiciaires prendre beaucoup l'espace de la politique. La politique aujourd'hui, elle se joue pas mal dans et à partir du pouvoir judiciaire. Donc, je fais beaucoup de recherches à propos du pouvoir judiciaire. en essayant de tracer les profils des juges, la propre structure du pouvoir judiciaire au Brésil. On fait beaucoup de recherches avec l'association même des magistrats au Brésil. Et aussi, je fais des recherches sur l'inclusion des technologies dans les processus judiciaires. C'est-à-dire aujourd'hui, sur l'excuse des technicismes, en disant comme ça, on applique toujours plus des technologies, des intelligences artificielles pour juger tous les procès et même toute l'automatisation du système de justice. Et donc, j'ai des recherches à propos de ces sujets parce que ça m'intéresse comment toute cette modification du pouvoir judiciaire protège ou protège pas les droits humains, les droits des citoyens. Mais je croise ça avec je suis anthropologue juridique, il faut parler aussi, c'est pour ça que je m'intéresse à ces sujets. J'étais formée dans l'anthropologie légale. Et à part ça, je travaille beaucoup sur les racismes et discriminations, des recherches sur le multiculturalisme, les peuples indiens d'Amérique latine, surtout au Mexique, où j'ai vécu longtemps, et les populations noires au Brésil, où j'ai plus de 25 ans que je travaille sur les sujets des politiques publiques, des discriminations positives et spécialement, et tous les changements constitutionnels en Amérique latine qui ont été faits par la protection des Indiens et noirs surtout. Mais les derniers temps, je commençais à travailler sur l'extrême droite. Et l'extrême droite au Brésil, elle apparaît avec une redéfinition, je trouve qu'un peu partout dans le monde, une redéfinition identitaire très forte, en promettant une réforme culturelle et des valeurs dans le pays et de la société brésilienne, en discutant la propre définition de ce qui est les Brésiliens. Et ce qui n'est pas les Brésiliens. Donc là, ces gouvernements, ils mettent en discussion la propre définition, et ça c'est très intéressant, même de l'Indien des Noirs. Qui est l'Indien? Comment on définit un Indien? Comment on définit un Noir? Donc, toute cette expérience de travailler sur l'ethnicité, on a transféré pour travailler sur l'identification même de cette extrême droite, en essayant aussi de tracer le profil et de regarder comment elle s'identifie, comment elle se présente, quelles sont les valeurs qu'elle défend. On essaie d'une façon très anthropologique quand même de comprendre l'extrême droite par leur activité, la quotidiennité, les ministères, les autorités, en essayant de tracer les fonctionnements même du gouvernement Bolsonaro. Pas pour critiquer, mais pour échapper parfois des places très communes des discussions de populisme, non autoritarisme, pour essayer d'aller un peu au-delà et d'approfondir dans la structure même du gouvernement, non, comme il travaille finalement, non, le projet du gouvernement, les budgets, les choix des autorités, même l'organogramme, même les sites internet des institutions. Et c'est là qu'on cherche pas mal pour trouver, à partir de ces catégories d'autorité, pour essayer de trouver, de construire ces profils de l'extrême droite brésilienne. Non? Parce qu'on est étonné, surpris, et c'est vraiment, on n'attendait pas du tout ça. Comprendre les scénarios au Brésil. En fait, les universités, elles sont vraiment, on peut dire, les blancs du gouvernement, non? Parce qu'on dit beaucoup à propos de Bolsonaro, il est un peu idiot, fou, mais il faut bien comprendre qu'ils sont bien organisés. Donc, il y a tout un plan et il arrive avec la promesse de faire vraiment une révolution culturelle. L'université, comme il est dit souvent, mais même les ministres, les universités, elles sont les représentants de ce qu'il appelle le marxisme culturel. Donc, il faut enlever la gauche de l'université, comme il dit. Il faut remplacer l'université avec d'autres savoirs. Et là joue aussi cette idée qu'il y a de reprendre la religion. Donc, Bolsonaro, il reprend les discours religieux et là, on va entrer dans le terrain des négationnismes, des designs intelligents, comme ils les appellent, non, les créationnismes. Donc, il s'ajoute beaucoup dans la discussion avec l'université, que l'université, elle doit s'ouvrir à d'autres traditions de savoir. Ils utilisent même ces noms, en s'appropriant même du conseil anthropologique. Il veut détruire les universités, comme on dit souvent. Les structures d'université au Brésil, on est surtout des universités fédérales, plus de 60, qui sont maintenues directement par les ministères d'éducation brésiliens. Donc, nous sommes tous des profs embauchés directement à l'université, mais employés par les ministères d'éducation. On a une carrière nationale, en disant comme ça. Elles sont les meilleures universités du pays, ce sont les universités publiques et fédérales. Mais il y a les universités qui sont d'État, comme l'État de São Paulo, l'État de Rio, qui sont maintenues directement par les gouvernements d'État. Les universités les plus connues de São Paulo, du Brésil, ce sont de São Paulo et elles sont de l'État de São Paulo. Donc, c'est les plus fortes universités étatales. Il y a Rio aussi. Il y a encore un autre type d'université publique, c'est l'université des municipales. Plus de la majorité des productions académiques et des recherches au Brésil viennent d'universités publiques. Il y a les universités privées et même confessionnelles, comme la catholique, il y a deux, trois qui sont vraiment de bonnes universités. Il y a quelques-unes qui sont aussi protestantes, qui sont connues, et qui sont des universités confessionnelles. Et après ça, il y a 10 000 universités qui sont facultés privées, très spécialisées un peu partout dans le Brésil. Donc ça, c'est les structures qui est contrôlé par les ministères d'éducation, qui a deux agences, et ça c'est très important, une agence publique nationale pour le financement de la recherche, une autre qui finance aussi la recherche, mais qui contrôle tous les masters, les programmes de master et doctorat dans les pays. C'est-à-dire, la décision d'ouvrir, de fermer un master, un doctorat, tout le financement des bourses, la production des professeurs, tout ça, est contrôlé par la CAPES. Voilà, la décision de maintenir ouvert ou fermer un programme, la décision d'approuver des créations des programmes est centralisée, même s'ils font partie d'une université privée. Et là, l'université au Brésil, elle est devenue quand même un centre d'attention. Parce que c'est là qu'on a vu quand même un des gros changements que le gouvernement Lula a fait. Parce qu'il a doublé la quantité d'universités au pays. C'est vraiment là, il a plus que doublé la quantité d'élèves et de profs. Il a créé deux programmes gigantesques. Et plus que ça, il a créé un système de bourses aussi pour des élèves étudiés dans des universités privées. Donc avec ça, il a presque qui a doublé toute la quantité d'étudiants universitaires dans les pays. C'est du jamais vu. Et en plus, on a établi dans les pays le système des quotas, qui c'est un système qui fonctionne. 50% des places des universités publiques, elles doivent être pour les étudiants qui viennent de l'école publique. Parce que le système d'école publique au Brésil, les écoles publiques, c'est au contraire des universités publiques. Elles ne sont pas des bonnes écoles. Donc, normalement, les universités publiques sont occupées pour des élèves qui viennent de l'école privée. Et donc, ça, c'est une façon d'obliger que les élèves de l'école publique pouvaient entrer dans l'université. Parmi les 50% des élèves de l'école publique, la moitié est dirigée pour des élèves noirs et indiens. Et tout ça par rapport à la pourcentage de la région d'où il vient. Donc, il y a tout un calcul, mais ça a changé beaucoup l'image de l'université, la représentation d'élèves dans l'université. Il a augmenté la quantité d'élèves des couches sociales beaucoup plus pauvres. Il y a plus de Noirs et Indiens dans l'université. Et vraiment, ça a beaucoup élargi l'ambiance parce que c'était juste à la licence. Et aujourd'hui, on a des quotas même pour les masters et doctorats. Donc, ça a complètement changé l'univers de l'éducation. Et en plus, il y a aussi les quotas qui existent, que ce sont des lois fédérales, qui existent pour les concours publics. Tous les concours pour l'administration publique, elle doit avoir 20% de quotas pour les Noirs. Et là, ça ne prend pas en compte les niveaux sociaux, c'est directement pour les Noirs. C'est-à-dire les concours des professeurs, des universités aussi, ils doivent respecter les pourcentages pour les Noirs. Donc, ça oblige aussi à changer la configuration des universités. Lorsque Bolsonaro est arrivé, la première chose, c'est se battre pour finir avec les quotas. On touche à un moment très compliqué parce que les quotas étaient prévus de façon temporaire, 10 ans. Et c'est exactement cette année. Et puis, les ministres d'éducation de Bolsonaro même a dit que les universités, elles n'est pas pour les pauvres. Il dit ce genre de choses. Elle est faite pour l'élite. Donc, ce qu'on voit dans les systèmes, c'est vraiment une coupure sociale énorme, une dispute sociale de maintenir une situation d'élite. On parle d'un pays qui a été toujours géré par les grandes oligarchies. Surtout des grands propriétaires terriens, un pays avec une historique d'esclavage gigantesque. Donc ça, c'est super important. Et un pays qui n'est même pas comme d'autres pays d'Amérique latine, même si le Brésil a beaucoup développé, mais d'autres pays d'Amérique latine, comme le Mexique, par exemple, ont eu des révolutions. Ils ont eu changement de pouvoir d'État. Et non, nous, on a une élite qui est, depuis la colonisation, la même. Donc, les gros changements sont venus les derniers temps. Et un pays qui, plus qu'on imaginait, très, très conservateur par rapport aux valeurs, à la religion, et en plus avec la montée des évangéliques. Et les évangéliques, ils ont aussi une structure éducationnelle qui grandit beaucoup. C'est un peu effrayant parce qu'ils ont beaucoup d'écoles. Il faut faire attention parce que les universités et l'école publique aussi, elles sont vraiment persécutées. Les écoles publiques, il y a eu tout un projet qui s'appelle l'école sans parti du gouvernement, qui s'est trouvé de façon de punir tous les profs d'écoles publiques ou d'universités qui pouvaient faire de l'idéologie et qui pourtant d'interdire l'idéologie dans l'espace public. Et en plus, il y a toute une démarche d'approuver au Congrès national l'éducation domiciliaire, qui c'est quelque chose, une demande des églises. Et les écoles privées, parce qu'il y a ce côté réformateur, mais il y a un côté ultra néolibéral. Donc, les gouvernements ont beaucoup de soutien des facultés privées au Brésil. Et voilà, c'est vraiment défendre cette idée de la religion, du droit qu'on étudie à partir de son univers religieux. Et nettoyer l'université de toute discussion gauchiste, comme elle dit. On a vu que depuis 4 ans, il ne descend de 95% de financement de l'université publique. C'est gigantesque. On est au bout des souffles parce que lorsqu'il a essayé d'une façon plutôt violente de contrôler l'université, mais quand même il y a une structure ancienne des associations et des hiérarchies dans l'organisation de l'université publique au Brésil. Donc, ce qu'il a essayé les dernières années, c'est vraiment enlever tout l'argent pour empêcher qu'elle fonctionne. Il peut couper les budgets parce que, par exemple, tout l'argent de l'université publique, elles sont des comptes du gouvernement. Et tous les budgets sont centralisés, sortent directement du ministère. Donc, chaque année, il envoie au Congrès national les budgets pour l'année prochaine. Et là, il décide combien qui va être dirigé à l'éducation. Bolsonaro, il y a beaucoup de soutien au Congrès national. Le Congrès national aussi, il était pris par conservateurs. Il a géré tout ce qu'il appelle les budgets secrets au Brésil, qui sont d'argent qui part directement aux députés et sénateurs. Et comme ça, on est bloqué, on n'a pas beaucoup de représentativité pour défendre les universités. Si on parle à propos des idéologies, le marxisme culturel, Bolsonaro est... Il a fait toute la propagande, la publicité lorsqu'il était en campagne, les dernières élections, en combattant l'idéologie du genre. Pour eux, c'est tout ce qui arrive au Brésil avec les femmes, les homosexuels, tout cette vertu. Donc ça, c'était fondamental pour son élection. Incroyable, mais toutes les fake news, elle était toujours gérée à cause de ça. Et en plus que l'université, elle était un espace de diffusion de cette idéologie, mais aussi de la drogue et du communisme. Donc c'est étonnant qu'on est revenu à tout un débat sur le communisme, que là on est au milieu des élections au Brésil et c'est toujours ce qu'on doit répondre. Et que nous les profs, on sait absolument rien, nous sommes des vagabonds, nous sommes vraiment des drogués, tout ça. Mais c'est très très raffiné la façon qu'il fait parce qu'il construit toujours cette idée de liberté, de démocratie dans sa tête. Et pour eux, c'est ça, la liberté, c'est pouvoir défendre le conservatisme. La liberté, c'est vraiment pouvoir décider de faire une éducation à partir de la religion, contre la laïcité. Toutes ces attaques à l'université n'étaient pas seulement aux sciences humaines, mais aussi aux sciences exactes, parce que là, on est en train de gérer des situations, et même des élèves à l'université qui croient vraiment au créationnisme, donc ça nous a beaucoup épatés. Vraiment, ils font beaucoup de comparaisons à ce qu'ils entendent à l'église et ce qu'ils ont dit dans les cours. Donc moi-même, j'ai eu des élèves en sciences sociales qui disaient qu'ils avaient étudié dans l'église à propos de la création. Soudain, on a vu les sciences se faire attaquer, un peu comme aux États-Unis. La pandémie nous a mené aussi à la discussion du négationnisme. Donc, il y a toute une partie des sciences exactes et de la nature. Avec le Brésil, il y a toute une tradition de production de vaccins, des institutions très fortes. Donc, le négationnisme nous a beaucoup, beaucoup touché à l'université de tout ce qu'ils ont fait. Même les structures de recherche des gouvernements, des données sociales, même le recensement démographique, il n'a pas voulu faire, il a voulu changer le recensement, enlever des questions, interférer au recensement. Il a même voulu se mêler dans les choix des questions pour l'examen, les bacs brésiliens. Donc, il a essayé d'obliger que toutes les preuves passaient par la présidence de la République. Donc, on a eu des soutiens du pouvoir judiciaire pour arrêter ça, parce qu'ils ont essayé de contrôler tous les examens des universités. Et bien sûr, ce qui concerne aux sciences humaines, des carrières comme philosophie, sociologie, anthropologie, c'est vraiment... pas de financement, surveillance sur les coûts, c'est ce qu'on dit, les manifestations publiques. Il y a eu un prof qui a fait un cours sur l'impeachment des Dilma, tout ça. Il a été surveillé. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Donc, on peut être jugé par des procès administratifs en tant que fonctionnaire public. Donc, ils ont essayé plusieurs fois, ils ont ouvert des procès contre les professeurs pour idéologisation d'un des cours. Ils ont motivé aux élèves d'enregistrer des cours et dénoncer les profs qui étaient en train de faire ça. Et cela, ce sont des longs procès, mais il y a eu des scandales énormes au Brésil à propos de ça. Mais des persécutions qui étaient un peu continues dans l'université. Il y a une association qui a été créée même par des profs qui sont proches à l'extrême droite, comme ils sont appelés les professeurs pour la liberté. Donc là, c'est les noms de l'association, mais ils sont tout ça très, très conservateur. Il défend aussi le néolibéralisme, la privatisation de l'université. Il y a une chose plus sophistiquée qui nous atteint beaucoup, qui nous fait peur. C'est ce gouvernement travaille avec les réseaux sociaux. Parce qu'il y a les cabinets d'Hélène, qui est très connu, qui est mouvementé par ses enfants là, de Bolsonaro. Et ce cabinet, il s'occupe beaucoup des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et lorsqu'il y a un prof qui, je sais pas, une prof qui est très connue, qui travaille l'avortement, tout ça, il commence à détruire par les réseaux sociaux. Et ça dérape dans des menaces de mort, tout ça, très présent. Donc ça, c'est aussi ce qui justifie un peu le silence à ces moments des profs, parce que soudain, tu peux être dans une discussion publique, dans des journaux, et un niveau d'agression incroyable. Donc c'est le motif que la société nous attaque. Et c'est ça qu'il dit, il faut surveiller. Et c'est là qu'il dit aux gens, même avec toute la politique d'armes, vous pouvez marché armé. Vous pouvez aller voter armé. Il a convoqué la population d'aller voter avec des armes. Donc c'est la Cour suprême qui a interdit les gens de porter des armes les jours même d'élection. Et donc c'est pour ça qu'on est effrayé, parce que finalement on risque toujours de tomber dans ces mécanismes fous d'attaques sur les réseaux sociaux qui est promu par la présidence de la République. Et on est surveillé par d'autres profs, par des élèves. Et donc, c'est ça que je trouve que c'est même différent de l'époque de la dictature, parce que les réseaux sociaux, c'est un outil énorme. Et juste pour compléter, moi que j'ai fait la recherche de l'extrême droite, d'abord, on a vraiment une ambiance toxique. Il faut cacher pas mal de choses, pas de financement pour ça impossible, mais on essaie quand même, ça va être public, les podcasts, mais je profite de rassembler les élèves et de façon cachée, je fais mes recherches à propos de l'extrême droite. Bien sûr qu'on ne peut pas interviewer les gens parce qu'on se cache, on ne veut pas être remarqué, diffusé. Il y a un contrôle, et celui-ci, j'ai même subi que lorsqu'on participe des organisations internationales, moi, Flaxo par exemple, ou des commissions, des comités, des scientifiques, tout ça, il y a une surveillance directe. Moi-même, j'ai été déjà investiguée par la présidence de la République, mon nom, et je sais parce qu'ils ont appelé des gens communs pour savoir, avoir des références à moi. C'est cette. Ils surveillent en contrôlant toute cette participation qu'on peut avoir dans des commissions scientifiques, dans des institutions, des organismes. Donc, il faut toujours jouer un peu la protection. On a un site internet de nos projets de recherche. Et si vous regardez, c'est toujours un peu caché. Et surtout les élèves, ils font beaucoup d'attention parce qu'ils cherchent du travail. On a eu pas mal des élèves qui ont été appelés à la police de temps en temps. Des gens qui travaillent avec la population indienne, c'est impossible. Impossible. Vous ne pouvez plus entrer dans une communauté indienne, travailler sur les indiennes, contrôlées par les comités d'éthique sans avoir l'autorisation de la présidence. C'est-à-dire, on ne va pas demander parce qu'on sait qu'on n'aura pas l'autorisation. Donc, c'est cette façon qu'on est vraiment surveillé et qu'on vit cette peur quotidienne. Même moi, je rentre dans mes cours, je fais un peu attention pour voir quel niveau de discours je peux avoir. Mais on essaie quand même d'être en cachette tout le temps pour éviter l'exposition publique. C'est ça qu'il nous fait, c'est incroyable. Une exposition publique incroyable. Ils peuvent détruire l'académicien, les professeurs publiquement. et comme ça attirer. C'est comme on dit, ils vont déléguer la violence aux partisans qui se sont légitimés de nous attaquer publiquement. Juste au début, on a eu quand même des disputes violentes, même physiquement, des élèves qui se sont confrontés à d'autres élèves. Il faut voir aussi qu'il y avait beaucoup de soutien des mouvements Brésil Libre, que ce sont des jeunes d'extrême droite, qui sont aussi des étudiants. Donc, on a peur. Et c'est aussi qui a amené l'université à éviter des rassemblements des étudiants dans l'université. Dans des congrès, des séminaires, on a vécu ça dans notre université, des élèves qui envahissent au milieu de séminaires, de congrès, et pour créer toute la dispute, la confusion, provocation, l'attaque physique. La pandémie nous a aidés lorsqu'on est parti au virtuel, donc on a pu, mais en même temps, les risques étaient d'autres, parce que là, ça devient public à l'Internet. Non, mais physiquement, ça a diminué. L'université a demandé de faire attention, de ne pas enregistrer les cours. Mais on sait que les élèves peuvent enregistrer. Mais on a eu des cas vraiment graves qui ont provoqué des démissions des professeurs. On a eu même un recteur d'une université qui a été persécuté par la justice, accusé faussement de corruption, tout ça. Il n'a pas supporté, il s'est suicidé. Ce qui peut arriver à l'université, il est vendredi dernier. Comme j'avais dit, tout l'argent de l'université, elle reste dans la même compte publique. Bolsonaro a confisqué cet argent pour passer au Congrès. Donc, tous les élèves sont sortis dans la rue parce que là, c'est fini, on ferme les universités au privé. On est arrivé à ce point-là. Il y en a dans un moment qui, sans exagération, si ce gouvernement continue, on ne sait pas quoi faire. Vraiment, d'abord, on est vraiment étonné avec le fondamentalisme religieux qui a pris une proportion incroyable. Et comme on n'a plus de voix et d'espace, et dans cette campagne, c'est toujours la même accusation vers les universités, vers les professeurs. On est vraiment inquiet parce qu'on ne sait pas. On aura la légitimation vraiment d'une surveillance et d'un contrôle de la connaissance incroyable. Ils ont rempli tous les ans des fichiers gigantesques avec des programmes de chaque cours. On peut cacher une année, mais on ne pourra plus. On a des ministres qui sont pasteurs, donc ils contrôlent l'éducation. Déjà, ça va être très difficile si Lula revient parce qu'il y aura un congrès national, surtout le Sénat, très occupé par l'extrême droite. La dernière chose que je peux dire, que jusque-là, on a eu beaucoup de soutien de la Cour suprême. Bolsonaro, il attaque la Cour suprême tous les jours. Tous les jours. Mais c'est la Cour suprême qui a protégé même des professeurs qui étaient accusés, menacés, parce qu'il y a quand même une loi, c'est constitutionnel, l'autonomie de l'université. Et donc, c'est la Cour suprême qui a quand même rendu possible qu'on continue à travailler. C'est hyper important. Mais là, les vice-présidents et Bolsonaro a confirmé, ils ont promis d'élargir les numéros des magistrats à la Cour suprême pour qu'ils puissent mettre des gens qui pensent comme eux. Et ça, c'est même une promesse de la campagne de Bolsonaro de changer la Cour suprême. Et c'est vraiment les dernières protections qu'il y en a. Il faut finir avec la Cour suprême. Parce que la Cour suprême qui défend la laïcité de l'État, les droits, les universités publiques, l'autonomie des universités, même toute la vaccination au Brésil, la lutte contre la pandémie a été soutenue par la Cour suprême. Donc, qui a libéré les vaccins. Donc, vraiment, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup l'étude sur les pouvoirs judiciaires au Brésil, parce que là, c'est vrai que c'est un peu le gardien de la démocratie à ce moment. Il a déjà choisi deux ministres. Un ministre qui est assez évangéliste, très, très conservateur, qui est là. Et lorsqu'il a choisi le dernier ministre de la Cour suprême, il a dit qu'il voulait, comme il a parlé, un ministre terriblement évangélique. On peut dire que je ne pouvais jamais imaginer à ce niveau, mais on peut dire que c'est vraiment une installation dans les pouvoirs des églises.
Depuis cet enregistrement, Lula a été réélu président du Brésil. Il a succédé à Bolsonaro le 1er janvier 2023.
Depuis 60 ans, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme soutient et diffuse des connaissances en sciences humaines et sociales. Avec les voix de Vlad Berindey et Emmanuel Korn, ce podcast a été enregistré en octobre 2022 et publié en janvier 2023 dans la collection Zones contraintes.